Donc le titre « Achieving the lung a long time », donc le poumon du VIH au cours du temps, c'est presque une question philosophique parce qu'effectivement le VIH évolue dans le temps à la fois sur le plan de l'épidémiologie et à la fois finalement sur le plan immunologique pour le malade et à la fois également en fonction du moment où on le rencontre avant ou après le traitement. Donc c'est un titre qui me paraît extrêmement adapté à cette présentation. Il faut toujours se mettre en perspective et ça met beaucoup d'humilité aussi sur nos préoccupations quotidiennes. Et voyez, ce sont les données 2013 de l'OMS. Il y a 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, plus d'hommes, beaucoup d'enfants. Et ça constitue également une cause de mortalité importante puisque en 2013, 1,5 million de personnes mouraient du sida. Vous connaissez aussi un peu cette répartition très inégalitaire. On parle beaucoup d'égalité dans la santé et nous sommes très inégaux devant cette santé, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans tous les continents. Et le continent le plus touché, comme vous le savez, est l'Afrique subsaharienne avec 25 millions de personnes porteurs du VIH en 2013. Et en parallèle, bien sûr, cette mortalité, 1,1 million de décès en Afrique subsaharienne liés au sida. Quelle est la situation? Je n'ai pas de données précises sur le Moyen-Orient et en particulier le Liban. Je n'ai pas eu de données, mais il semble, lorsqu'on voit cette carte générale des populations vivant avec le VIH dans le monde, de 2013 également, que l'incidence semble plutôt assez faible. Et donc probablement que les données que l'on peut avoir dans des pays comme la France sont assez similaires en termes de pathologie à ce qu'on peut rencontrer au Liban. Et il faut faire très attention parce que c'est une maladie qui va énormément dépendre effectivement du pays dans lequel on habite. Et je suis très heureux ensuite que nos collègues d'Afrique subsaharienne nous montrent un peu ce qui se passe dans ce continent. Alors c'est une histoire très compliquée, le VIH. Vous savez qu'au départ, ça a d'abord été un syndrome de déficit immunitaire acquis. Et donc, ce qui était caractéristique de cette maladie, c'était les conséquences du déficit immunitaire et essentiellement les infections et les tumeurs. Et puis, ce n'est que secondairement qu'on a identifié le virus responsable de ce déficit immunitaire. Et aujourd'hui, finalement, assez peu de pathologies sont directement reliées au virus. Elles sont plus indirectement reliées à l'effet du déficit immunitaire ou de l'immunité dérégulée au cours de cette infection. Et puis, il y a eu encore des modifications de cette épidémiologie et de ces pathologies lorsqu'on a pu reconstituer l'immunité grâce au traitement antirétroviral. L'histoire naturelle de cette infection VIH dans le temps, chez une personne donnée, vous avez en pointillé la charge virale et en très plein le déficit immunitaire qui est jugé par le taux de CD4 circulant. Eh bien, vous savez que tout de suite après la primo-infection, il y a une explosion virale, une charge virale qui monte de manière très considérable, et qu'à ce moment-là, il peut y avoir un grand déficit immunitaire et même des infections opportunistes inaugurales de la primo-infection. Puis ensuite va se mettre en place une réponse immunitaire anti-VIH, et on sait qu'il faut environ 8 à 12 semaines pour qu'elle se mette en place et qu'on puisse avoir des tests sérologiques qui démontrent l'infection VIH. On a des tests plus précoces qui permettent de montrer l'infection. Et puis, petit à petit, le déficit immunitaire va se constituer jusqu'au stade historique sida, moins de 200 CD4, apparition des infections opportunistes, et là, finalement, une explosion de la charge virale. Je reprendrai ce diagramme différemment, et vous savez que les caractéristiques des complications liées à l'infection VIH sont hautement reliées au taux de CD4 circulant, plus qu'à la charge virale, à l'exception des pathologies finalement non infectieuses, qui elles sont peu dépendantes du déficit immunitaire, même si elles le sont un peu. Depuis, l'infection VIH a été modifiée par l'avènement des antirétroviraux, monothérapie, puis bithérapie, puis trithérapie à partir de 1996. Et j'ai vécu ça dans les hôpitaux à Paris. 50% des patients VIH sont brutalement sortis de l'hôpital en juin de 1996, pour gérer pratiquement plus y retourner, jusqu'à plus récemment, lié aux complications tardives du VIH et donc au vieillissement prématuré. Il est important aussi de considérer cette évolution de l'immunité au cours du temps et surtout de la reconstitution immunitaire. Vous savez qu'il se fait dans deux temps. Un premier temps, après l'introduction des antirétroviraux, il y a une déséquestration des lymphocytes encore vivants et encore fonctionnels qui étaient trappés dans le système rético-endothélial, donc une espèce d'amélioration très rapide de cette immunité, puis une reconstitution plus lente de l'immunité spécifique avec la reconstitution des lymphocytes mémoire. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on va observer des complications appelées iris dont je parlerai. Donc quand on est en situation de rencontrer un patient VIH, on est finalement en situation double. La première situation, c'est un patient qui n'est pas traité par le traitement antirétroviral ou qui est en échec, soit parce qu'il ne prend pas, soit parce qu'il l'a mal pris et qu'il est multirésistant, ou au contraire devant un patient qui est observant de son traitement depuis des années et des années. Et j'aborderai essentiellement deux questions à se poser devant ce patient. Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans son poumon, en quoi il est malade? Deuxièmement, comment on peut en faire le diagnostic? Je n'aurai pas le temps d'aborder les traitements spécifiques de chacune des complications. Et il faut toujours revenir finalement à l'histoire, et cette histoire naturelle est très bien décrite. Elle n'a jamais été aussi bien décrite depuis 1997. Elle est importante de l'avoir en tête. C'était une cohorte nord-américaine qui a suivi plus de 1000 personnes infectées par le VIH pendant 5 ans. À cette époque, il n'y a pas de traitement, donc on peut comptabiliser les événements. Et donc, on va comptabiliser les événements infectieux et les événements non infectieux. Et la première chose essentielle à avoir, c'est la proportion des différents événements respiratoires dans le temps, et se souvenir quand même que la très grande majorité des événements respiratoires, même au stade sans traitement antirétroviral, sont d'abord et avant tout des infections bénignes des voies aériennes supérieures, des bronchites, et que finalement les infections pulmonaires sévères sont beaucoup plus rares finalement que ces infections bénignes. Et ce qui prédomine dans tous les pays, c'est tout d'abord et avant tout les pneumonies bactériennes, et les pneumonies bactériennes qui vont s'accentuer au cours du temps s'il n'y a pas de traitement antirétroviral, et qui sont d'ailleurs les moins bien, la reconstitution immunitaire B est moins bonne que le reste, et elle persiste même au-delà de la mise sous traitement antirétroviral. Ensuite, pour les infections opportunistes ou l'infection pulmonaire non bactérienne, finalement, ça va complètement dépendre du pays en considéré. Dans les pays, je dirais, de l'Europe ou du Nord américain, c'est la pneumocystose qui domine. Dans les pays, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, c'est très clairement la tuberculose qui va dominer. Et en fonction des pays d'Asie, les choses vont être compliquées entre la pneumocystose et la tuberculose. Et puis, les autres infections opportunistes sont, elles, beaucoup, 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 beaucoup plus rares. Donc, finalement, on va avoir trois marqueurs pulmonaires de sévérité en termes d'infection, qui sont les pneumonies bactérielles, la pneumocystose et la tuberculose. Dès 1997, on s'aperçoit qu'à côté des infections opportunistes ou infections bactériennes à répétition, on va identifier chez ces patients VIH des pathologies cardiovasculaires, thromboboliques, mais aussi, dès cette période-là, des hypertensions pulmonaires, et puis des pathologies tumorales, soit reliées au VIH, et on le saura après, en particulier le sarcome de Kaposi, qui, vous savez, est une co-infection avec HHV-8, mais également des cancers bronchopulmonaires et des tumeurs solides en général, et puis des pneumopathies infiltrantes diffuses, soit non spécifiques, soit très particulières au VIH, qui sont ces pneumopathies interstitielles lymphoïdes, qui témoignent de la réponse immunitaire anti-VIH. Alors, comment on aborde. Mais toutes ces affections-là sont quand même extrêmement rares, mais je referai une synthèse par rapport, effectivement, à comment les classer en fonction de leur fréquence et de l'attitude qu'on peut avoir derrière. Il est évident que le plus grand élément de discussion face à un patient qui est séropositif et qui a des problèmes respiratoires va être la sévérité du déficit immunitaire. Le mode d'infection du VIH va un petit peu contribuer. Il est essentiel aussi de mettre en perspective les infections, les possibilités de réinfection endogène, et ça va complètement dépendre du pays dans lequel on se situe. Bien entendu, le fait que le patient ne soit pas exposé à un traitement prophylactique. Et puis, ça aussi, c'est une spécialité de notre centre clinique de considérer les pathologies en fonction de l'expression clinique au niveau pulmonaire. Ce deuxième travail qui me paraît aussi fondateur, c'est de se dire, par tranche de CD4 inférieure à 100, entre 100 et 200, entre 200 et 300 et plus de 300, quelles sont les pathologies qui représentent 80% des manifestations dans cette tranche de CD4. Eh bien, entre 300 et 400 CD4, qu'est-ce qu'on voit essentiellement? C'est essentiellement des pneumonies communautaires, et c'est la tuberculose de rencontre liée finalement à l'épidémie du pays. Et puis, on rencontre aussi à cette tranche de CD4 les défenses immunitaires anti-VIH ou forme d'une pneumopathie interstitielle lymphoïde. Lorsqu'on va descendre dans le déficit immunitaire, on va constater deux événements. Premièrement, l'apparition de tuberculose, de pathologies opportunistes beaucoup plus inhabituelles, comme les mycobactéries atypiques, comme la pneumocystose, comme des toxoplasmoses ou des histoplasmoses ou des cryptococcoses, mais surtout la modification du tableau habituel des infections fréquentes. Lorsque on baisse les CD4, la pneumonie bactérienne va être plus récurrente, elle va être plus disséminée, plus associée avec des hémocultures positives. Et là encore, lorsque le déficit immunitaire va s'étendre, eh bien, la tuberculose, qui est une tuberculose classique chez les patients qui ont peu de déficit immunitaire, va être une tuberculose atypique, multi-organe, avec une atteinte à la fois médiastinale, pleurale et parenchymateuse, mais aussi méningite et extra-thoracique. Et puis, comme dans le travail que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, lorsqu'on a plus de 500 CD4, là encore, les manifestations les plus fréquentes sont essentiellement les sinusites, les bronchites, les pharyngites. Et puis, c'est là qu'on va trouver aussi les infections non reliées directement au VIH. Ce qui a fait les choux gras des publications des années 85-90, c'est-à-dire toutes ces infections opportunistes, finalement, sont très très rares et on ne les rencontre pratiquement plus à l'ère des trithérapies. Elle se situe toujours à moins de 100 CD4, et là, on peut absolument tout trouver dans un poumon du VIH. Et la question toujours est de se poser, finalement, de savoir si vraiment ce qu'on retrouve est pathogène ou est simplement passager, et un petit peu comme le tube à essai ou Tom Lescar, finalement, on retrouve un agent infectieux parce qu'il n'y a plus de défense locale, il n'est pas forcément responsable de la pathologie que l'on observe. Si on résume ça de manière très pragmatique, on doit se dire que si son patient a plus de 250 CD4, eh bien, dans 90% des cas, lorsqu'il va venir voir son pneumologue ou son interniste ou son généraliste, eh bien, il va avoir toussé un petit peu de fièvre et ça va être le plus souvent une infection bénigne. Donc, il ne faut pas surmédicaliser ce patient à ce moment-là. Si les CD4 sont inférieurs à 250, eh bien, encore dans 70% de cas, il va s'agir d'une infection bénigne qui ne va pas nécessiter nécessairement des investigations très poussées. Mais c'est quand même à ce moment-là que la pneumonie bactérienne, la pneumocystose et la tuberculose vont être assez prédominants. Lorsqu'on est à moins de 250 CD4, à ce moment-là, on ne peut plus considérer les choses de manière similaire, on ne peut plus être dans le bénin, on doit être très proactif et se dire, ce malade a soit une pneumonie bactérienne, soit une tuberculose, soit une pneumocystose. Et c'est finalement que dans les situations où le patient a moins de ses CD4, sans CD4, qu'on va avoir toujours nos trois prédominants, tuberculose, pneumonie et pneumocystose, mais qu'on va pouvoir avoir n'importe quelle autre infection opportuniste. C'est là que ça va être difficile et compliqué, surtout dans les pays où on a peu de techniques microbiologiques à la disposition. Et puis toujours se dire qu'une fois qu'on a éliminé la pathologie infectieuse, on peut être en situation de pathologie non infectieuse, soit inflammatoire pulmonaire, soit tumorale. Est-ce que le mode de transmission contribue beaucoup à l'approche diagnostique, beaucoup moins que les CD4? Je vous montre un peu ce qui se passe en France en fonction du mode de contamination. Et par exemple, chez les homosexuels, eh bien, on va trouver la pneumocystose comme dans toutes les populations VIH, mais surtout des pathologies marquantes de la transmission du HHV vite, comme le sarcome de Kaposi. Si on regarde les hétérosexuels nés en France et ayant vécu en France, eh bien, le marqueur numéro 1 de l'infection VIH va être la pneumocystose. Si on s'intéresse aux migrants, et en particulier aux migrants d'origine de l'Afrique subsaharienne, le premier diagnostic à évoquer, c'est une tuberculose. Donc ça va être important, effectivement, à considérer. Et si on voit aussi en perspective cette problématique entre tuberculose, épidémiologie locale, déficit immunitaire, ce travail qui est dans un pays nord-américain dit, bien sûr, j'ai un risque relatif important, plus important si mes CD4 sont bas, de tuberculose, mais le risque le plus important de l'émergence de la tuberculose, c'est plutôt mes conditions de vie. Est-ce que je suis en précarité ou pas en précarité? Et est-ce que j'ai vécu dans un pays de forte endémie? Et est-ce que j'ai une preuve d'exposition par un test tuberculique ou un quantiféron d'avoir été exposé à Mycobacterium tuberculosis? Vous savez aussi qu'en fonction de l'expression radiologique et radioclinique du tableau, on va plutôt évoquer certaines pathologies plutôt que d'autres. Et si la pathologie est diffuse et fébrile, mono-organe, c'est la pneumocystose qu'il va falloir penser en premier. si la, le tableau est focal, très brutal, avec 39-40, ça va être la pneumonie bactérienne en première. Si les choses sont plus subaiguës et s'il y a des macronodules a priori excavés, eh bien, on va penser à la tuberculose. Mais finalement, je vais montrer ensuite hein, toutes les possibilités en fonction des tableaux cliniques. Et ce qui est plus complexe, c'est que, eh bien, en fonction du déficit immunitaire, cette expression clinique habituelle peut se modifier. On peut avoir des pneumocystoses focales avec un déficit immunitaire important. On peut avoir des pneumonies bactérielles sous forme d'atteinte bilatérale et diffuse avec un ARDS et des hémocultures positives, si le déficit immunitaire est plus important. Et on peut avoir aussi des tuberculoses qui, de commune, vont devenir atypiques avec des miliaires ou des atteintes multi-organes. Vous voyez ici quatre expressions radiologiques très différentes d'une tuberculose en fonction, finalement, du déficit immunitaire. Et ça, ça a été bien démontré. Lorsque le déficit immunitaire augmente, on a à ce moment-là plus de formes extrathoraciques de la tuberculose, plus de formes ganglionnaires, plus de formes méningées et miliaires. D'où aussi le fait d'adapter notre approche diagnostique en tenant compte à la fois de l'expression radiologique, mais aussi du déficit immunitaire. Là encore, c'est un petit peu peut-être compliqué à lire ce diagramme, mais il vous dit en gros, si vous avez plutôt des atteintes diffuses, eh bien, l'approche de référence va être le lavage alvéolaire et éventuellement l'expectoration induite. Si vous avez plutôt une atteinte qui est focale, l'examen de référence va être plutôt la fibroscopie bronchique ou les prélèvements protégés ou les ponctions sous scanner. Dans tous les cas, vous devez rechercher le mycobacterium tuberculosis dans les crachats parce que vous savez qu'une des particularités d'infection VIH, c'est la possibilité d'avoir plusieurs co-infections. Et puis les flèches qui partent, par exemple, de la pneumocystis carinii et qui a 200 CD4, lorsqu'elle va s'effondrer, eh bien, elle va pouvoir donner des formes plus atypiques. Donc vous allez devoir aussi moduler vos examens complémentaires en fonction du CD4 et de l'expression clinique. Et vous voyez que là, on n'a pas intégré non plus les autres atteintes radiologiques comme les pleurésies, qui sont essentiellement l'apanage du Kaposi et de la tuberculose, ou les adénopathies médiastinales, qui sont l'apanage essentiellement de la tuberculose, mais aussi des cryptococcoses. Alors, quel est l'impact de cette histoire naturelle de l'infection VIH des traitements antirétroviraux? D'abord, cet impact ne va concerner que les pays qui disposent du traitement ou que le patient qui reçoit le traitement et qui le suit de manière régulière. Incontestablement, ça va être associé à une réduction de la morbimortalité globale, mais on précisera un petit peu plus, et effectivement qui va dépendre un peu des pathologies, plus ou moins dépendantes du déficit immunitaire. Et puis aussi, toutes ces maladies un petit peu d'escar et de tube à essai ont disparu grâce à la trithérapie. On ne voit plus de cryptosporidiose pulmonaire depuis que les patients ne sont plus immunodéprimés. Puis ça va aussi dépendre du fait qu'ils aient ou pas reçu un traitement de prophylaxie. Alors, trois éléments à prendre en considération. D'abord, est-ce qu'il y a des toxicités spécifiques des antirétroviraux au niveau pulmonaire? Ensuite, quel va être l'effet de pathologies liées à la reconstitution immunitaire? Et puis enfin, comme les patients vivent longtemps et qu'il y a probablement un effet sur le vieillissement prématuré, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence sur les pathologies pulmonaires? Alors voilà l'évolution, là encore en France, des pathologies inaugurales du diagnostic d'infection VIH. Et vous voyez que deux éléments à considérer. Premièrement, effectivement, une diminution progressive des pneumocystoses du fait que les malades... Une diminution progressive de la tuberculose du fait que les malades soient pris en charge plus précocement et qu'on fasse le diagnostic à la fois de la tuberculose et du VIH de manière concomitante. Vous voyez que la pneumocystose n'a pas beaucoup baissé parce que finalement elle reste toujours en France l'événement inaugural du patient VIH méconnu et que toutes les autres infections opportunistes ont diminué simplement parce que du coup les patients sont plus pris en charge précocement et qu'on ne les voit plus. Est-ce qu'il y a une toxicité pulmonaire spécifique des traitements antirétroviraux? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de démonstration de pneumopathie médicamenteuse liée à tous ces antirétroviraux. La seule chose que vous devez savoir, c'est que les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase reverse vont être responsables éventuellement de myopathie et de toxicité mitochondriale et donc vont être responsables de myopathie et peut-être à ce moment-là de dyspnée, d'essoufflement, non liée à une atteinte pulmonaire, mais plutôt à une atteinte de myopathie. L'autre élément que vous devez connaître absolument, c'est les interactions médicamenteuses entre les antiprotéases, et en particulier le ritonavir. et les corticostéroïdes, que ce soit par voie orale mais aussi inhalée, qui peuvent donner à la fois des syndromes cushingoïdes et des insuffisances surrénaliennes. Et donc, vous ne devez pas prescrire de corticoïdes inhalés en dehors de la béclométasone si votre patient reçoit un traitement antirétroviral comportant en particulier une antiprotéase et surtout le ritonavir, au risque vraiment d'observer des tableaux de Cushing très rapides et extrêmement invalidants et peu réversibles. Quelques mots maintenant sur le syndrome de reconstitution immunitaire, avec des critères maintenant qui sont bien définis par Selburne depuis 2002. C'est bien sûr un patient VIH, mais on a observé ça, vous savez, en dehors de l'infection VIH. C'est quelqu'un qui reçoit un traitement antirétroviral et qui voit s'effondrer sa charge virale et brutalement s'améliorer son déficit immunitaire par déséquestration des lymphocytes CD4. Il a une pathologie qui est consistante, qui est en rapport avec effectivement un processus inflammatoire. Les autres pathologies en cours étaient plutôt en amélioration lorsqu'on observe ce tableau-là. Et a priori, bien sûr, il n'a pas de toxicité liée au traitement qu'on lui a donné. Et donc, je reviens sur cette diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure. Il se passe deux événements. Premier événement, c'est la déséquestration rapide d'un très grand nombre de cellules inflammatoires, pas forcément spécifiques du pathogène rencontré dans le poumon, mais qui vont en fait être un petit peu comme ce qu'on voit dans les aplasiques qui brutalement revoient ces polynucléaires neutrophiles apparaître. Donc une explosion inflammatoire des lésions pulmonaires, cérébrales, hépatiques, tout ce que vous voulez. Et puis dans un deuxième temps, il va y avoir une reconstitution qui est plus lente, qui est faite des lymphocytes spécifiques de chacun des pathogènes. Et donc ça va être dans un deuxième temps deux vagues de reconstitution immunitaire qui peut donner deux manifestations différentes des syndromes de reconstitution. Ce travail aussi qui me paraît pas mal et historique, qui a été publié en médecine, qui fait sur la colonne de gauche l'énumération des pathologies que l'on peut retrouver. Et puis finalement, moi je l'ai un petit peu réadapté en vous disant ce qu'on sait de ces infections au niveau pulmonaire et non pulmonaire et comment elles vont s'aggraver au moment de la reconstitution immunitaire. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que pour le pneumologue, la complication importante de la reconstitution immunitaire va être reliée essentiellement à la tuberculose qui va s'aggraver au niveau pulmonaire mais aussi au niveau cérébral. C'est aussi vrai pour d'autres pathologies infectieuses qui touchent le poumon, mais pas exclusivement le poumon, comme les Mycobacterium avium intracellulare ou les cryptococcoses, mais qui, à ce moment-là, vont plutôt donner des signes de reconstitution au niveau de la peau, au niveau des ganglions, au niveau des méninges. Donc, vous voyez, des tableaux un peu différents. Pour Pneumocystis carinii, les choses sont quand même très exceptionnelles, et c'est pareil pour le cytomégalovirus. Il faut aussi savoir que ces manifestations-là de reconstitution immunitaire ont été parfois responsables d'aggravation de syndrome de Kaposi pulmonaire, cutané, ganglionnaire, qu'on en reparlera aussi un petit peu plus loin. Il y a eu une discussion à un moment donné sur l'association entre des sarcoïdoses et infections de VIH. Je pense que c'est plutôt des situations de rencontre, plus qu'un lien direct, mais qui pose la question de la reconstitution tardive. Et dans tous les cas, on sait qu'environ 15 à 20% des patients qui vont présenter une tuberculose vont présenter un certain nombre de reconstitutions immunitaires, donc un risque d'aggravation dans les premières semaines après la mise en route du traitement antituberculeux. C'est important de considérer les facteurs de risque et la date de survenue de cet événement de reconstitution. Il se fait essentiellement chez les patients qui avaient des CD4 très bas au moment de l'introduction du traitement antituberculeux. Il se fait essentiellement dans les premières semaines de l'introduction du traitement antirétroviral. Mais en particulier pour la tuberculose, il peut se faire de manière plus tardive et il est grévé d'une certaine mortalité, environ 3 à 5 %. Vous savez qu'il y a eu un superbe essai à Camellia qui a été fait en Asie et qui a démontré que chez les patients justement très immunodéprimés, qui, comme témoigne cette diapositive, l'introduction précoce d'une corticothérapie courte et faiblement dosée réduit considérablement le risque d'apparition de syndrome de reconstitution et surtout, ce qui est beaucoup plus important, réduit la mortalité secondaire tout en n'augmentant pas le risque des complications liées à la corticothérapie. Deux, trois mots sur des reconstitutions plus tardives et qui ont fait discuter effectivement le lien entre sarcoïdose et reconstitution immunitaire. Ici, c'est un travail qu'on avait fait dans le service avec donc une reconstitution immunitaire progressive chez un patient chez qui on voyait petit à petit augmenter les CD4 dans le sang et chez qui était apparue secondairement une sarcoïdose. Ensuite, nous avons recueilli une dizaine de cas français. Et aujourd'hui, je dirais que les choses sont assez stables. Oui, il y a des cas d'association entre VIH et sarcoïdose. Oui, ce sont plutôt des patients qui ont une immunité reconstituée, mais pas seulement. La clinique et la radiologie est tout à fait similaire à une sarcoïdose conventionnelle. On retrouve du granulome quand on fait des biopsies. On retrouve une alvéolite ACD4 dans le poumon de ces malades. Et très clairement, l'évolution est celle d'une sarcoïdose pour les mêmes stades de sarcoïdose. Elle ne nécessite pas nécessairement une corticothérapie systématique. Et lorsqu'on est amené à donner une corticothérapie, ça ne se passe pas si mal que ça. Donc, il n'y a pas de crainte particulière entre sarcoïdose et VIH. De manière aussi surprenante, on n'a pas observé, lors de traitements antirétroviral, l'aggravation des pneumopathies interstitielles lymphoïdes. Et en fait, ça aussi, c'est un travail qu'on avait fait aussi dans le service. C'était, finalement, on a vu observer un certain nombre de patients qui avaient des LIP, essentiellement des patients d'origine Afrique subsaharienne, tableau assez typique sur le plan radiologique, avec une pneumopathie infrarouge diffuse, des micronodules, un lavage alvéolaire très lymphocytaire, des lymphocytes circulants aussi très importants. Quand on les a mis sous traitement antirétroviral, finalement, les tableaux se sont le plus souvent améliorés, et on peut le comprendre parce qu'il y a une chute brutale. Quand vous mettez un malade sous traitement antirétroviral, il y a une chute très rapide, en 24-48 heures, de la charge virale, avant même, j'allais dire, qu'il y ait la reconstitution immunitaire et la déséquestration des lymphocytes des ganglions vers le poumon. Donc finalement, les lymphocytes arrivent bien dans le poumon, mais ils n'ont plus de target, hein, de cible que sont les lymphocytes infectés par le VIH. Et donc finalement, ça se passe plutôt bien et ça plutôt améliore les malades que ça les détériore. Donc on avait plusieurs cas consécutifs qui étaient tous améliorés sous traitement antirétroviral. Et comme je vous l'ai remontré tout à l'heure, hein, on comprend bien, la charge virale diminue très rapidement après la mise sous antirétroviraux. La reconstitution immunitaire est un petit peu plus lente et plus tardive. Effectivement, quand on a regardé les lymphocytes CD4 et CD8 dans le sang périphérique et dans le lavage de ces patients, eh bien, il y avait peu de modifications de leur taux circulant, alors que vous voyez qu'il y avait très rapidement un effondrement de la charge virale au niveau périphérique. Et donc, la reconstitution immunitaire n'avait pas le temps de créer une situation d'iris. Pour finir, je vais aborder les nouvelles pathologies qui sont très probablement pas liées directement au VIH, plutôt liées à la reconstitution immunitaire, mais aussi à la séquescence accélérée chez les patients au VIH sous traitement antirétroviral ou liés à l'infection au VIH, que sont essentiellement les bronchopathies chroniques obstructives au sens large du terme, je vais y revenir, que sont également les hypertensions pulmonaires, pardon. Je trouve que ce n'est pas très clair pour ce qui est des fibroses pulmonaires, et puis l'exposé suivant, le troisième exposé, sera plus spécifiquement en rapport avec les cancers du poumon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de maladies bronchiques et VIH ? Premièrement, depuis le départ, il y a toute une littérature sur hyperactivité bronchique et asthme au cours de l'infection VIH qui reste encore fragile. C'est clairement associé à une aggravation ou à une apparition de TVO obstructif et d'emphysème, et puis également de bronchiectasie, mais ça c'est plutôt une littérature pédiatrique. Il y a toujours tout un tas de rôles physiopathologiques assez discutables. On retrouve de plus en plus la notion d'un stress oxydatif et d'une téléromépathie avec une sénescence accélérée chez les patients VIH. Et puis, bien entendu, tout ce qui est la relation entre tabac et inflammation et entre infection chronique au VIH et inflammation chronique. Est-ce que la clinique est particulière ? Non, elle n'est pas particulière. J'ai relu à l'occasion de cet exposé des choses assez intrigantes qui posent aussi des problèmes dans le cancer, des relations entre des aggravations, une augmentation du déclin respiratoire sous traitement antirétroviral. Vous savez que ces traitements antirétroviraux interviennent aussi à l'intérieur de la cellule normale et peuvent créer des événements de stress aussi cellulaire qui ne sont encore pas bien compris. Le traitement n'est pas non plus spécifique, hein, c'est l'arrêt du tabac, la réhabilitation bien sûr, et comme je l'ai déjà signalé, faire attention aux corticoïdes inhalés. Alors, de toutes les manières, il y a peu d'indications chez les patients qui ont une COPD, Donc ça, c'est pas très grave. Ça peut être plus compliqué chez patients asthmatiques où on a absolument là besoin d'un traitement inhalé cortisonné. Et à ce moment-là, il faut préférer la béclométasone. En ce qui concerne l'hypertension pulmonaire, elle est inclue, vous savez, l'hypertension pulmonaire associée à l'infection VIH est inclue dans le groupe 1 de la classification des hypertensions pulmonaires. La description est depuis 1986. Ça représente environ 0,5% des patients VIH. Et c'est quand même 1000 fois supérieur à ce qu'on rencontre dans la population générale. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Là encore, la pathogénèse est complexe. Bien sûr, comme toujours, quand on parle d'hypertension pulmonaire, on trouve plus de patients exposés à des drogues par voie injectée. Il y a là plus clairement une relation entre VIH, cellules endothéliales et inflammation chronique à l'origine de cette hypertension pulmonaire. Là encore, elle n'a pas de clinique particulière et elle peut survenir à n'importe quand de l'infection VIH. Dans 25% des cas, elle va être inaugurale de l'infection VIH et donc le diagnostic, le bilan étiologique d'une hypertension pulmonaire doit comporter bien sûr une sérologie VIH. Et il faut bien sûr très facilement, et il est recommandé chez les patients VIH, de faire régulièrement un bilan cardiovasculaire et en particulier à la recherche d'une hypertension pulmonaire qui doit être, comme vous le savez, systématiquement contrôlée par le cathétérisme droit. Sur le plan thérapeutique, la survie a été améliorée par le traitement antirétroviral. Il y a aussi une complexité à la gestion du traitement de ces hypertensions pulmonaires liées aux interactions avec les antirétroviraux. Et c'est en particulier vrai avec le sildénafil. En revanche, le bosentan, la prostacycline ne pose pas de problème. Et il y a aussi été question de, comme il s'agit d'une infection, une inflammation aussi vasculaire, des cas d'amélioration très importante et complète d'hypertension pulmonaire, à la fois sous traitement antirétroviral, mais aussi avec la corticothérapie à forte dose et le bosentan. Ça sera ma dernière diapositive et pour préparer l'exposé qui va venir. L'autre pathologie en émergence lors de la mise sous traitement antirétroviral, ce sont les tumeurs en général. Il y a des cancers reliés au VIH, comme vous le savez, le sarcome de Kaposi, le lymphome, il y a le BV, le cancer du canal anal, il y a HPV. Et puis, le premier cancer actuellement responsable de mortalité et en fréquence associé au VIH, non associé directement au VIH, eh bien, ça va être le cancer du poumon. Et donc, je m'arrêterai là pour la suite de l'exposé tout à l'heure. Merci.